Ils ont déjà, ces religieux de l'époque de Jésus, eu l'occasion de mettre en pratique la loi. Et Jésus demande à ses disciples de faire mieux. Faire mieux que ces pharisiens et ces scribes. Alors on pourrait se dire que faire mieux dans l'application de la loi, ça voudrait dire en faire encore plus que les pharisiens et les scribes. Et Jésus dit non, c'est faire mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire mieux que les scribes et les pharisiens quand on veut obéir à Dieu? Eh bien cela veut dire revenir au sens de la loi de Dieu. Jésus, dans ce texte que nous allons lire maintenant, rétablit la juste exigence de la loi. Et qu'est-ce que Dieu demande à l'homme quand il donne sa loi? Il demande rien moins que la perfection. C'est ce que Jésus dit tout à la fin du chapitre 5 de Matthieu. Nous allons commencer par lire ce verset. Matthieu 5, verset 48. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Ça, c'est le verset clé de tout ce chapitre. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Nous allons lire donc maintenant à partir du verset 21. Nous allons lire les trois premiers exemples, il y en a six, on va en lire trois ce matin, et il y en aura trois pour la prédication du mois de janvier. Reprenons la lecture, donc, Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait chuter dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Nous lisons jusque-là pour ce matin, mais le texte continue et nous lirons la suite la prochaine fois. Et donc je relis le dernier verset de ce chapitre 5. Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. On pourrait dire que cette invitation, c'est une invitation à vivre le fameux dicton « tel père, tel fils ». On pourrait ajouter tel père, telle fille. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a parfaitement vécu sa vie d'homme selon la volonté de son Père céleste. Et il nous donne là trois exemples pratiques concernant la colère, la convoitise et l'égoïsme, qui sont trois formes de domination, comme je le disais en introduction. J'ai donc donné comme titre à cette prédication « Votre Père Céleste est parfait, apprenez à éviter la colère injuste, la convoitise et l'égoïsme. » Votre Père Céleste est parfait, apprenez à éviter la colère injuste, la convoitise et l'égoïsme. Regardons un par un ces trois cas pratiques que Jésus évoque dans son enseignement. D'abord la colère, c'est les versets 21 à 26. Quel est le problème? Pourquoi Jésus parle-t-il ici de la colère? Le problème, c'est que les religieux de son temps se disent, tant qu'on n'a pas commis d'homicide, on n'est pas coupable au regard de ce commandement qui dit « tu ne tueras point ». Peu importe l'intensité de notre colère sur le moment, du moment qu'on ne commet pas l'irréparable. Et donc Jésus revient au cœur de cette loi sur le meurtre pour dire « ça ne suffit pas à ça ». Parce que le problème, c'est votre colère. Alors on pourrait se demander, est-ce que Jésus interdit de se mettre en colère? Mais si nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus lui-même se met en colère à plusieurs reprises. Par exemple en Jean chapitre 2, quand il chasse les vendeurs du temple, il est en colère contre ces hommes qui font de sa maison, dit-il, son temple, une maison de commerce. C'était la bourse de l'époque, ou le Wall Street de l'époque. Jésus s'est lui-même mis en colère. Et dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle au chapitre 4 et au verset 26, « Mettez-vous en colère, dit-il, mais ne péchez pas. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Il y a donc, dans l'exemple de Jésus et dans d'autres textes du Nouveau Testament, une place pour une juste colère, par exemple contre le mal et l'injustice. Et quand des femmes se révoltent contre ce que certains hommes leur ont fait, leur colère est juste. Il y a de la place pour une juste colère. Alors on pourrait se dire, si ce n'est pas la colère qui est en elle-même interdite, est-ce que c'est certains mots, certains gros mots, certaines insultes, les mots « imbécile » ou « fou » que Jésus relève ici, on pourrait traduire aussi « insensé ». Et donc se dire « mais moi je n'ai pas dit imbécile à un tel, donc ça va, je suis tranquille devant Dieu ». Mais Jésus lui-même a utilisé ces mots à d'autres endroits dans les évangiles. Par exemple, il s'adresse aux pharisiens un petit peu plus loin, dans ce même évangile de Matthieu, au chapitre 23 et au verset 17, il dit aux religieux de son époque, « Insensés et aveugles que vous êtes !» C'est le même mot qu'on a dans notre texte ici. « Insensés, fous que vous êtes !» Cerveau vide. Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24 et au verset 25, c'est à ses disciples qu'il s'adresse de la même manière, pour leur dire, hey, les gars, vous n'avez pas encore compris. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, Simon l'a rappelé, Jésus utilise ces mots et pourtant il ne pêche pas, ni contre Dieu, ni contre son prochain. La question, c'est donc celle du lien entre les mots qu'on utilise et l'intention qui est dans notre cœur, dans notre pensée. Et donc, il est clair dans notre texte, je reviens à Matthieu chapitre 5, que Jésus a en tête des mots insultants qui visent à mépriser l'autre, à le rabaisser avec méchanceté. Dans ces insultes, imbéciles, fous, insensés, il y a un désir de réduire l'autre à rien, de le faire disparaître de notre vue ou de notre chemin, de le voir mort quelque part. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Jésus nous a rappelé dans les versets 17 à 20 que nous avons étudiés la dernière fois qu'il n'est pas venu abroger la loi, abolir la loi, mais l'accomplir. Et lui, il a parfaitement accompli ce sixième commandement de la loi. Non seulement il n'a pas tué, mais en plus, il a accepté d'être mis à mort, d'être tué, pour qu'en lui, toutes nos insultes, chacun de nos désirs de meurtre soit pardonné par notre Père Céleste. Nous méritions de passer en jugement. Nous méritions, comme dit Jésus au verset 22, le feu de l'enfer. Mais en Christ, Dieu veut nous faire grâce. Tâchons de nous en souvenir la prochaine fois qu'une insulte arrive sur nos lèvres. Dieu nous a beaucoup pardonné. Aussi, lorsque nous prenons conscience d'avoir mal agi, il y a urgence à régler le problème. Regardez les versets 22 et 23. Verset 23, par exemple. « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Israélite qui était monté à Jérusalem au temple pour apporter son offrande, là il se souvient qu'il y a un problème qui n'est pas réglé avec un compatriote. Et ce compatriote habite peut-être à Jéricho ou dans un village. Eh bien, il doit laisser là ce qu'il a apporté en venant au temple, repartir dans le village, peut-être à 100 km, pour régler le problème avec son frère. Vous voyez, Jésus est en train de dire que tout n'est pas réglé quand on a pris conscience du problème. C'est déjà une bonne chose. Mais tout n'est pas réglé non plus quand on vient déposer ce problème auprès de Dieu. Il faut aussi régler le problème avec la personne concernée. Et Jésus nous dit qu'il y a là une urgence. Et c'est les images qui sont utilisées au verset 25. « Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi !» Dépêche-toi d'aller régler le problème. Dépêche-toi de te réconcilier. Donc, concernant ce sixième commandement, tu ne tueras point, il ne s'agit pas ici seulement de ne pas commettre d'homicide. Il s'agit aussi, premièrement, d'éviter de se mettre en colère de manière injuste. Deuxièmement, de chercher rapidement à réparer les torts que l'on a, plutôt que de laisser pourrir une situation dans laquelle on a blessé quelqu'un. Il ne s'agit pas ici d'une situation où l'on est accusé à tort, mais où l'on a effectivement mal parlé ou mal agi. On en prend conscience, et bien il faut régler rapidement le problème. Premier point donc, éviter la colère injuste. Deuxième point, éviter la convoitise. Versets 27 à 30. Vous avez appris, verset 27, qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ça aussi, c'est un des 10 commandements. C'est le commandement qui suit le précédent. C'est le 7e commandement. « Tu ne commettras pas d'adultère ». Exode, chapitre 20, verset 14. Quel est le problème ici? un peu le même que pour la question du meurtre. Le problème, c'est quand les religieux, là, les gens du temps de Jésus, se disent, tant qu'il n'y a pas eu relation sexuelle avec une femme mariée, ou avec une autre femme, si on est soi-même marié, on n'a pas commis d'adultère. Et donc on est tranquille. Eh bien, de nouveau, Jésus dénonce cette mentalité. Et que fait Jésus, en fait? Il met ensemble ce 7e commandement et le 10e commandement, qui dit, tu ne convoiteras pas, entre autres, la femme de ton prochain. Et donc, pour Jésus, l'adultère, c'est quoi? C'est tout désir d'une relation sentimentale ou sexuelle qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est le reste de la Bible qui nous le dit. La volonté de Dieu, concernant la relation homme-femme, c'est un homme et une femme qui partagent une intimité sentimentale, physique et spirituelle dans le cadre du mariage. Ça, c'est le principe général. Quel est le cas pratique que Jésus aborde ici? C'est ce qu'il dit au verset 28. Si quelqu'un jette un regard chargé de désir, c'est-à-dire ici de convoitise, hein, sur une femme. Donc Jésus cible ici les hommes. Ceux qui pensent, par exemple, qu'ils peuvent draguer à droite à gauche sans être coupables d'adultère. Des hommes qui croient qu'en consultant des sites porno et en se masturbant, ils n'ont rien à se reprocher. Ou bien des hommes qui se croient autorisés à coucher avec leur femme, mais en pensant à une autre. Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quel remède Jésus propose-t-il? Versets 29 et 30. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Ces versets ne sont pas à mettre en pratique littéralement. Jésus n'est pas en train de dire « Tu t'es masturbé avec des pensées coupables, coupe-toi la main. » Jésus utilise des images choc pour, là encore, pointer l'urgence, la nécessité de changer d'attitude par rapport au péché. Si tu es tenté de surfer sur des sites pornographiques, alors mieux vaut couper ton abonnement Internet que de vivre dans l'adultère. C'est ça, un choix, un changement radical. Il y a urgence à lutter contre notre manière de faire de la femme un objet sexuel. Alors c'est aussi vrai dans l'autre sens, pour les femmes vis-à-vis des hommes. Mais ici, quand même, Jésus s'adresse aux hommes. Alors, moi aussi je m'adresse ce matin plus particulièrement aux hommes. Messieurs, Jésus était un homme comme nous. Écoutons son enseignement et imitons la manière dont il s'est comporté avec les femmes. Mesdames, priez pour vos hommes. Priez pour les hommes de cette Église, pour que nous apprenions davantage à vous respecter comme des vis-à-vis et non comme des objets à consommer. L'apôtre Pierre, dont nous avons lu le chapitre 3 de sa première lettre tout à l'heure, ne dit pas autre chose. Il a parlé du respect vis-à-vis de la femme. Nous avons là du travail. Troisième danger, l'égoïsme. Versets 31 et 32. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Quel est le problème ici? C'est quand un homme, là encore, pense être dans les règles vis-à-vis de la loi de Dieu parce qu'il a remis une lettre de divorce à sa femme. C'est comme ça que la loi, Deutéronome chapitre 24, les premiers versets, avait encadré la pratique du divorce. Et Jésus le dit bien aux pharisiens, à cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu chapitre 19. Et donc, certains hommes, là encore, qui se disaient religieux, avaient la conscience tranquille, une fois qu'ils avaient formellement divorcé, ils avaient donc donné une lettre de divorce à leur femme, « Tiens, je ne veux plus de toi, va-t'en. J'ai remis la lettre, je suis tranquille. » Et puis ils se remariaient, et puis de nouveau, leur femme ne leur plaisait plus. « Tiens, prends la lettre, là, et puis dégage. » C'est ça que Jésus dénonce ici. Encore une attitude machiste, égoïste, qui fait de la femme un objet. Jésus démasque ici l'hypocrisie masculine. On ne peut pas s'en tirer comme ça, sous prétexte qu'on a donné sa lettre. Jésus pose la question, qu'est-ce qui justifie votre divorce ? À l'époque, les interprétations des rabbins étaient discutées. Certains pensaient qu'il fallait une faute grave de la part de la femme pour la renvoyer. Et puis d'autres se disaient, mais non, n'importe quelle raison suffit. Si elle a brûlé le repas, moi je veux bien manger, ma femme brûle le repas, elle s'en va. N'oublions pas que le divorce, à l'époque, ça veut dire un homme qui renvoie sa femme. Ce n'est pas quelque chose qui est consenti de part et d'autre. Hein. C'est un homme qui renvoie sa femme. Et donc la femme est livrée à elle-même sans ressources. Jésus prend position ici, contre une attitude machiste qui considère la femme comme un objet qu'on prend et qu'on jette. Un objet qu'on garde quand il nous satisfait et qu'on jette quand on n'en veut plus. Jésus dit, ici, c'est écrit noir sur blanc, qu'un divorce, quand il n'y a pas de faute grave, Jésus parle d'immoralité sexuelle, eh bien, ce divorce expose les deux membres du couple à l'adultère. La femme, qui devient adultère si elle épouse un autre homme, et l'homme qui épouse une femme divorcée, une femme qui a été renvoyée pour une raison, entre guillemets, bidon, eh bien, cet homme devient lui aussi un adultère. Alors, Jésus ne fait pas ici un cours sur le divorce, et il y aurait sans doute bien d'autres choses à dire sur le sujet. Jésus réagit contre une pratique machiste du divorce. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est où est-ce que nous situons la ligne rouge, la faute qui fait qu'on demande le divorce? Combien de couples divorcent aujourd'hui parce qu'ils ne s'aiment plus ou parce qu'ils ne s'entendent plus? Est-ce une raison valable devant Dieu? Et si oui, à quel moment? Ce qu'on peut affirmer à partir de notre texte, Matthieu 5, c'est qu'un divorce pour une mauvaise raison, une raison futile, une raison pas suffisamment sérieuse, expose et l'homme et la femme à un futur adultère, et donc à une relation qui n'est pas juste devant Dieu. Votre Père céleste est parfait, dit Jésus, verset 48. Soyez donc parfait comme lui. Dieu nous appelle à tendre vers la perfection. Cela concerne les trois choses que nous avons évoquées ce matin. La colère, la convoitise et l'égoïsme. Cela nous concerne si l'on est célibataire. Cela nous concerne si l'on est en couple. Et ici, les hommes masculins sont particulièrement interpellés par rapport à leur attitude machiste. Souvenons-nous de l'affaire Weinstein que j'ai évoquée en introduction. Alors, tous les hommes ne sont pas des pervers en puissance. Mais nous avons tous cette tendance à vouloir dominer les autres. Si l'on est marié, nous ne sommes pas obligés d'attendre d'évoquer le divorce pour essayer de changer ce que nous vivons dans notre couple. Nous pouvons peut-être essayer de trouver quelqu'un de confiance pour en parler seul à seul, ou bien en couple. J'ai évoqué aussi, tout à l'heure, la question de la pornographie. Peut-être l'un ou l'une d'entre nous se trouve dans une situation compliquée avec la pornographie. Là aussi, peut-être nous pouvons aller trouver un frère, si nous sommes un homme, une sœur, si nous sommes une femme, pour évoquer cette difficulté. Des associations chrétiennes existent pour nous aider face à Internet ou bien face aux difficultés de couple que nous traversons. Il y a aussi des tempêtes dans notre vie. Et ces associations peuvent nous aider à soigner ou à prévenir certaines difficultés. Je pense à l'association Agapé ou Famille Je T'aime par exemple. La volonté de Dieu, c'est que nous tenions bon et que nous tendions vers la perfection, que nous soyons seuls ou en couple. Son esprit veut changer notre égoïsme masculin ou féminin en une mentalité nouvelle, plus aimante et plus serviable. Et nous pouvons, avec son aide, devenir plus fidèles dans notre service pour le Christ. Alors, la prochaine fois, nous allons voir les trois exemples suivants. Mais pour l'instant, nous nous arrêtons là et nous allons terminer en priant parce que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide pour vaincre cette tendance à la domination que nous avons tous. Prions. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Merci Seigneur pour cet appel. Tu vois aussi combien c'est difficile de tendre vers la perfection et combien nous avons besoin de ta grâce. Merci pour le Seigneur Jésus, qui est mort pour nos colères injustes, mort pour toutes nos convoitises, mort pour tout notre égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes encore si souvent coupables devant toi. Seigneur, aide-nous à ne pas rester là où nous en sommes, mais à aller plus loin, à continuer à progresser, pour que nos vies, notre célibat, notre vie de couple et de famille soient davantage conformes à ce que tu demandes, à ce que tu attends de nous. Merci de nous rappeler ce matin que le meurtre, ce n'est pas seulement quand nous tuons quelqu'un, c'est aussi la manière dont nous parlons et la manière dont nous gérons nos sentiments de colère. Merci de nous rappeler ce matin que l'adultère, ce n'est pas seulement quand nous couchons avec quelqu'un qui est marié, mais qui n'est pas notre femme, notre conjoint, mais c'est déjà dans notre cœur quand nous convoitons l'autre comme un objet pour notre satisfaction égoïste. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ce qui, dans notre vie, n'est pas à ta gloire. Nos colères injustes, nos adultères, nos égoïsmes. Pardonne-nous. Montre-nous une nouvelle manière de nous comporter avec notre femme, avec les autres femmes et dans l'Église, que nous puissions briller d'une manière nouvelle qui montre une autre manière d'être en relation les uns avec les autres et que ça puisse influencer nos voisins, nos collègues pendant cette semaine. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.